pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Ado Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30. Bonjour à tous et bienvenue dans Nos Adorés. Je suis Julie Sigel et je reçois pour la troisième fois consécutive, c'est un record dans l'émission, Lucas Borza.
Bonjour Julie.
Bonjour. Donc dans les deux premières émissions sur les addictions, nous avions abordé dans un premier temps la cigarette, dans un second temps l'alcool et aujourd'hui nous allons parler du cannabis, vaste sujet.
Grand sujet.
Grand sujet.
D'actualité.
D'actualité particulièrement ?
Oui, depuis ce mois de janvier 2020, il y a eu une réforme aussi, ouais.
Ah oui, c'est vrai.
Ouais. Mais on pourra peut-être en parler après, je ne sais pas.
Oui, mais tu nous en parleras parce que j'ai entendu oui, que c'est remis en discussion, non ? C'est surtout
oui,
ça.
Oui, c'est ça.
Ouais, très bien. Ok, donc on va parler de la consommation de cannabis aujourd'hui. Alors, pour éviter toute confusion, est-ce qu'on peut un peu expliciter ce qu'on entend par consommer du cannabis ? Quelles sont les différentes formes de consommation du cannabis ? Une ouverture sur l'usage thérapeutique et tout ça. Enfin, un peu, on va tout mettre un peu dans ce petit paquet pour commencer. Parce
oui.
que les parents... Il y en a peut-être qui consomment du cannabis à usage thérapeutique et c'est important aussi d'en parler, que les ados sachent quelle est la différence, etc. C'est intéressant. Mm-hmm.
Mm-hmm. Ben, c'est vrai qu'au niveau thérapeutique, le cannabis est déjà utilisé dans plein de pays à des fins médicales, de toute façon, ça c'est sûr. Même en France, même si on ne peut pas en acheter, il y a quand même une autorisation de soins qui est accordée, donc on peut en acheter dans un autre pays et l'utiliser en France en cas de maladie. Donc c'est quelque chose qui va arriver et qui c'est plutôt bien que ça arrive,
ah
dans
oui.
le sens où je vois pas en quoi c'est pire que de la morphine qu'on peut donner à l'hôpital, vous voyez. Donc c'est une substance qui aide, qui est validée scientifiquement. Le seul problème, c'est qu'elle est diabolisée en fait par l'usage social en fait qu'on en a. Donc c'est comme si je crois qu'on est à plus de 4 millions d'usagers en France de cannabis.
Récréatif ?
Ouais. Récréatif. Et donc forcément, c'est comme si 4 millions de gens se droguaient à la morphine. On aurait plus de mal, à mon avis, à accepter un traitement sous morphine pour les gens ayant de la douleur. Mais le principe est le même. C'est de ne pas diaboliser le truc, c'est de bien scinder. C'est-à-dire que prendre une substance à des fins récréatives n'a pas du tout, ne doit pas entrer en analyse quand il s'agit d'un médicament.
Bien sûr. Donc Lucas, tu peux juste nous rappeler rapidement pourquoi tu viens nous parler du cannabis ? Pourquoi tu es compétent pour nous parler du cannabis ?
Oui, alors c'est vrai que moi je suis psychologue du coup, spécialisé en TCC et je me suis spécialisé aussi en addiction, où j'ai un cours notamment à la fac sur la thérapie des addictions. J'ai travaillé en
master ?
Oui, en master, ouais.
Mm-hmm.
Master TCC.
D'accord.
J'ai travaillé en maison d'arrêt aussi un petit peu et dans des centres de cure addicto, donc de sevrage et de prise en charge thérapeutique, alcool, mais aussi toute autre addiction.
Mm-hmm.
Donc voilà, c'est pour ça.
Merci de nous l'avoir rappelé parce que c'est vrai que j'imagine qu'il y a des auditeurs qui n'ont pas forcément, et d'ailleurs, c'est pas normal, écouter les deux premières émissions. Ils peuvent rattraper leur retard sous forme de podcast sur radiojudaïka.fr. Donc on avait dit qu'on allait évoquer aussi les différentes façons de consommer du cannabis. Donc ici on est sur le récréatif. On vient de parler rapidement du thérapeutique qui est absolument fabuleux et malheureusement en France on est encore un peu à la traîne. Mais ça vient.
Ça vient.
Voilà, ça vient. Donc quelles sont les différentes formes de consommation du cannabis ? Qu'est-ce qu'on doit chercher dans les tiroirs de nos enfants ?
Sur la forme, en fait, il y a plusieurs types. On peut le fumer forcément, le cannabis. Après, on parle bien des feuilles, on peut parler de résine aussi. Mais il y a aussi tout ce qui est de l'huile de cannabis ou en mode ingéré. Donc dans l'alimentation, on peut mettre... On peut faire un beurre au cannabis, par exemple.
On peut faire une blague à mamie.
Ouais, et je pense que mamie la trouvera drôle, si elle n'est pas au courant. Mais ouais, du coup, voilà, il y a plusieurs formes, et c'est ça qui, ça n'a pas les mêmes effets. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que si on mange un space cake, par exemple, on n'aura pas les mêmes effets euphorisants, ou en tout cas...
Allons-y carrément, c'est mieux, c'est moins bien
Ça dépend des gens, après. Voilà, ceux qui... Il y a moins cette bouffée délirante quand on fume.
C'est plus doux.
C'est plus doux, c'est plus long, par contre. Donc... il peut vraiment y avoir des gens qui préfèrent et d'autres beaucoup moins. Et du coup, les effets peuvent être beaucoup plus dangereux si c'est plus long aussi. Ça, c'est vrai.
Oui, bien sûr. Donc, tu nous disais que c'était une substance à la mode.
Oui, c'est la première substance illicite qui est consommée en France, déjà.
Oui.
Donc on est sur quelque chose de très, très facile d'accès en plus, pas très cher par rapport à d'autres choses. Donc, facile d'accès sur les moyens, sur les lieux où on en trouve et sur le prix.
D'accord. Et les consommateurs adolescents d'alcool, ils fument aussi du cannabis. En général, ils sont plus sur une des substances, sachant que l'alcool, c'est en vente libre. Mm-hmm. Ici, on parle quand même d'aller acheter de manière un peu à la sauvette, même si ce n'est plus trop le cas, franchement.
C'est plus trop le cas. Et puis, voilà, il y a toujours un ami qui achète pour plusieurs. Voilà, ça, c'est, au niveau de l'achat, ce n'est même plus ça qui pose problème ou qui empêcherait les ados de fumer. En termes de corrélation, je ne peux pas te dire s'il y a une corrélation avec les gens qui fument. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a, il y a une prédisposition en fait, à l'addiction. C'est plutôt ça. Donc, les gens qui fument, pour les mêmes raisons que les gens qui boivent, est-ce qu'ils ne sont pas prédisposés aussi un petit peu? Il y a de fortes chances que oui.
Mais quand même, assez souvent, ils fument des cigarettes en parallèle, non ?
Oui, c'est aussi ça un gros problème, c'est que la différence entre un cannabis thérapeutique qui va être une substance dite isolée ou pure, quand c'est des substances même, on va dire, très biologiques, très, très, très pures en soi, elles sont coupées la plupart du temps. Mmh. Et encore, on est sur là des gens qui achètent des feuilles de cannabis de qualité, alors qu'aujourd'hui on trouve sur le réseau, j'ai encore eu une personne qui m'a dit ça, des feuilles de cannabis recouvertes de laque, par exemple de spray pour les cheveux, pour qu'elles aient un aspect luisant, ou qui étaient mélangées en fait avec du sable, parce que beaucoup de gens disent non mais si c'est des feuilles c'est pas grave, c'est bon pour c'est pas mauvais comme la résine où il y a énormément de produits toxiques dans la résine de cannabis, en tout cas potentiellement. Là, ils le mélangent avec du sable pour que ce soit plus lourd. Donc voilà, il y a l'aspect financier aussi des dealers qui vont après chercher à se faire de l'argent. Donc on n'est jamais sûr de ce qu'on consomme. C'est ça le gros problème.
D'accord. Merci. Et concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fume du cannabis ?
Bah, en fait, il y a cet effet euphorisant. C'est ça qui est assez... assez agréable pour les gens qui fument du cannabis. C'est ce côté un peu désinhibant, certes, mais surtout l'euphorie. C'est-à-dire que c'est vraiment un plaisir qui va venir et qui va permettre un état de relaxation après et un ralentissement aussi un petit peu du cerveau qui fait qu'on est apaisé. Donc il y a à la fois une bouffée un peu et derrière un effet un peu plus relaxant sur le long terme.
C'est pour ça que nombreux sont ceux qui nous disent, les ados, là, quand j'ai préparé l'émission, me disaient qu'ils fument le soir... avant de s'endormir, ça les aide.
Ouais, ça aide, ça ralentit en fait l'activité du cerveau. Mmh,
je vois. Donc est-ce qu'il y a une dépendance physique qui s'installe? Parce qu'en vrai, il n'y a pas de vraie dépendance physique, c'est plutôt une dépendance psychique, non?
C'est
pour
ça.
Ce genre de substance.
C'est ça, c'est-à-dire que là, le THC, donc la molécule responsable de l'effet, va en fait inhiber certains neurones. Donc des neurones inhibiteurs vont être inhibés. Donc on va laisser dans certains circuits, notamment de la récompense, il va y avoir plus d'activité. Et dans d'autres, il va y avoir une baisse d'activité des neurones. Donc quand on arrête, normalement le neurone reprend sa vie normale. On se rend juste compte que forcément, c'est comme si je bois énormément d'eau ou je mange énormément de sucre. À force, tout ce qui est fait dans l'excès génère quand même des conséquences long terme, voire durables et irrémédiables. Donc, on voit qu'il y a des effets long terme sur différentes choses à cause de consommation de cannabis.
Oui, bien sûr. Donc, le mythe du joint qui passe dans les soirées, c'est une chose, mais il y a des ados, donc, comme je le disais, là, qui parlent d'une consommation solitaire, donc pour se détendre, se déstresser, aider à l'endormissement, comme j'y faisais référence. Donc, quand faut-il que l'ado s'inquiète de sa propre consommation ?
Ça peut paraître un petit peu facile à dire, mais j'ai envie de dire, dès qu'on dépend de quelque chose, pour atteindre un objectif, j'aurais presque tendance à dire que c'est déjà un peu à risque.
C'est-à-dire, je peux pas dormir si j'ai pas fumé.
C'est ça.
Je peux pas sortir de chez moi si j'ai pas.
Voilà. Ouais. Il y a ce côté où on est handicapé si on n'a pas la substance. Là, à partir de là, on est déjà à risque de toute façon. Quelqu'un qui me dirait la même chose, je peux pas m'endormir sans musique. Pour moi, il est à risque aussi. Ça veut dire qu'il y a quand même un problème d'endormissement qui est un petit peu étouffé par la musique.
Oui, je vois.
Mais donc c'est pas la substance en elle-même.
C'est tout dans le comportement, quoi.
Exactement. Ça, ouais. Bien donc sûr. Là, il faut s'alerter.
Donc le fait qu'il fume seul, c'est pas forcément une alerte absolue.
C'est pas le fait de fumer seul qui joue, c'est le fait de fumer parce qu'on en a besoin, qu'on soit seul ou en groupe. Pourquoi fumer ?
Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours le sentiment que consommer seul, ça montre une certaine propension à un comportement addictif, quoi, plus qu'en groupe, alors que c'est peut-être bête.
C'est pas bête dans le sens où, au niveau des corrélations, les gens seuls qui consomment souvent souffrent de dépression également.
Ah oui.
Ou peuvent souffrir
de symptômes.
Ça peut être un symptôme
de quelque chose.
C'est plus un symptôme de quelque chose et c'est plus ça qui pose problème.
Ah oui. Par contre, un ado qui refuse de tirer sur un joint qui tourne est souvent mis en marge du groupe ou considéré comme coincé, ou voilà, pas sûr de lui, ou peu importe. Donc comment est-ce qu'on peut lui donner les armes pour être capable de dire non, tout en restant justement sûr de lui à un âge où on cherche à s'inclure dans un groupe voilà. C'est pas forcément évident. Lui dire de changer ses fréquentations, c'est pas une option, j'imagine.
On peut le dire, c'est pas
plus grave que ça.
Ouais. Mais tout dépend des fréquentations aussi, c'est-à-dire qu'il y a, je pense que chaque parent a son seuil d'acceptation des fréquentations. S'il fume, si ses potes fument tous les soirs et qu'ils vont à des fêtes clandestines et qu'ils l'emmènent vraiment dans des choses un peu dark, je pense qu'il faut que même les amis de cette personne ou les parents agissent de toute façon. Après, dire qu'il faut changer de fréquentation, non, en soi, aujourd'hui, on ne peut pas trop le dire... quelle que soit la fréquentation. En tout cas, il n'y aura pas les répercussions qu'on souhaite forcément. C'est plutôt de vraiment réussir à sensibiliser. Et pareil, sur l'affirmation de soi, quoi. C'est que, ok, c'est peut-être cool de fumer. En tout cas, le groupe trouve que c'est cool de fumer, ok. Mais comment on peut être cool aussi dans son groupe ? En fait, c'est plutôt ça. C'est que si on dit non à un joint, il ne faut pas avoir peur de ne pas être cool. C'est la société qui nous dit que c'est cool de fumer. Donc, si on veut être cool et intégré, ben on passe par d'autres moyens. On les fait rire, on organise d'autres événements, des sorties, d'autres soirées même. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter en se mettant soi-même une étiquette qu'on n'est pas cool si on dit non. On peut tout à fait être cool et être intégré si on dit non. C'est notre société qui nous dit faut dire oui, ou c'est même le... Il y a souvent un ou deux leaders un petit peu qui disent qu'on n'est pas bien si on consomme pas. La plupart des autres, ils en ont rien à faire en fait.
Oui, mais la semaine passée, tu sais, quand on avait parlé de l'alcool, on avait dit que ça avait un effet désinhibant qui permettait effectivement de s'intégrer dans le groupe. Enfin, c'est pas exactement comme ça qu'on l'a dit, mais enfin, en tout cas, celui qui ne buvait pas et se sentait vraiment complètement en marge, en l'occurrence. Oui. Pour la fumette, c'est pas pareil ?
Déjà un petit peu moins.
D'accord.
En termes de substance, au niveau des inhibants, c'est quand même moins désinhibant. Par contre, c'est aussi en fonction des goûts des gens, parce que une soirée sous cannabis n'est pas la même que sous alcool. Faut aussi aimer ce type de soirée. Très posé, on le voit sur des études, même sur animaux, les animaux sont amorphes. À l'Inserm, là, à Bordeaux, ils ont fait une étude sur des rats. On injecte l'équivalent d'un joint pour le rat, on lui injecte. Il est complètement amorphe dans sa petite cajouille et il ne bouge plus et il attend que ça passe. Quoi.
Ah donc, oui, je vois. Donc, en groupe, forcément, on ne va pas avoir de grandes conversations. Ce n'est pas le péril jeune. Quoi.
Ah non, et il y en a qui croient qu'ils ont de grandes conversations sous cannabis. Mais ça, c'est autre chose. C'est parce qu'ils fonctionnent à deux à l'heure et donc ils n'ont pas conscience que déjà qu'ils mettent longtemps à faire une phrase et que c'est un petit peu décousu.
Waouh ! Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Filmez-vous, les gars.
Mais oui,
envoyez-nous les vidéos.
Ouais, nous, au moins, on se marrerait.
Ah bah oui, bien sûr. Donc, le parent doit-il partager son histoire de ses consommations, enfin son historique, pardon, de consommation, si historique il y a, avec l'ado pour lui dire tu vois, moi aussi, après j'ai regretté, etc. Est-ce que ça, c'est une bonne démarche en tant que parent ?
C'est la théorie du modèle. C'est un peu facile aujourd'hui de se positionner en modèle sur sa propre expérience parce que les ados, ils sont dans une culture qui fait que si nos parents disent que ils ont un ami qui est mort à cause de l'alcool, par exemple, ils vont toujours en fait le relativiser en disant oui, bon, c'est un cas exceptionnel. C'est rare que ce type de message percute vraiment l'enfant en tant que tel. Donc partager ces histoires, moi j'y vois toujours. Il faut que ce soit spontané. Si ça sort, ça sort. Si la personne a envie de le dire, elle le dit. Si le parent veut. Attendre des résultats chez l'autre, c'est toujours plus compliqué parce qu'on est... Du coup, ça veut dire qu'on réfléchit à quoi dire en fonction du résultat qu'on espère. Donc, je dirais plutôt, en fonction de la relation parent-enfant, soit c'est pertinent de le faire parce que nous-mêmes, on a envie de le partager, soit pas.
Donc, on ne fait pas une soirée fumette avec son ado ?
Non, ça, effectivement, je le déconseillerais.
Contrairement à l'alcool dont nous avions parlé.
À cause de cette légalité, tout simplement.
Ah ouais, tout à fait.
On n'est que là-dedans, c'est qu'on en pense ce qu'on en veut, le cannabis reste illégal. Donc, aller dans des comportements illégaux, j'aurais tendance à dire non.
D'accord.
Même si la substance n'est pas plus dangereuse sur le moment que l'alcool, ça reste un produit illégal, donc techniquement, non.
Ah oui, c'est par rapport au côté illégal de la chose.
C'est par rapport au côté illégal, surtout que maintenant, en fait, ça va être inscrit dans les casiers judiciaires, les consommations de cannabis. Donc ça, c'est une grande nouveauté, c'est que ils vont...
La simple consommation ?
Ouais. Ils vont faire en fait des amendes forfaitaires aujourd'hui. Donc les gens pensaient que c'était bien que s'ils étaient chopés en train de fumer, ils pourraient payer. Donc on en reste là.
Ah, alors que là, il y aura une trace.
Et donc en fait, maintenant, ça va être inscrit dans le casier judiciaire. Donc un jeune qui est en fac de droit, par exemple, qui fume, il ne pourra jamais exercer son métier s'il se fait attraper.
Mais il n'y a pas une partie du casier judiciaire qui s'efface à partir, au bout d'un certain moment, non ?
Il me semble que sous Sarkozy, ça a été enlevé, ça.
Ah.
Qu'il avait fait en sorte qu'il y ait un lien quand même. Après, je ne suis pas expert, donc je dis peut-être bêtise, mais...
On peut toujours se renseigner en ligne, effectivement, mais c'est assez fou, ça.
Donc,
les étudiants, c'est quand même intéressant qu'ils le sachent.
C'est intéressant qu'ils le sachent, surtout qu'il y a un effet de hiérarchie sur la justice. Donc, la première fois, on s'est quand même noté dans le casier. Par contre, la deuxième fois, le juge va aller un cran au-dessus, puis troisième, puis quatrième. Donc,
ils sont beaucoup simple usage.
Oui, ils sont beaucoup plus répressifs maintenant, mine de rien. Ils vont l'être.
C'est fou, ça. Bon, d'accord. Donc un ado qui fume, quelle est la marche à suivre s'il sent que sa consommation dépasse son espace de liberté ?
L'avantage, c'est qu'en France, pour le moment, les moyens d'agir sur les addictions en fait, regroupent toutes les addictions. Donc c'est un peu les mêmes que l'alcool ou la cigarette. Après, il y a des choses spécifiques à chaque substance, mais ça reste de demander de l'aide de toute façon. Parce qu'on peut faire un sevrage spontané. Il n'y a pas de risque de mort accrue avec un sevrage au cannabis, contrairement à l'alcool. Mais c'est beaucoup plus d'avoir les outils qu'il faut au niveau psycho pour savoir comment contrebalancer à quoi sert le cannabis. Le cannabis sert à quelque chose, il sert forcément à quelque chose. Et après, on est bloqué dedans, mais à la base, il servait à quelque chose. Donc il faut vraiment qu'il y ait de l'aide autour de ça pour que le jeune puisse... contrebalancer cette absence de substance, en fait.
D'accord. Et les jeunes que toi, tu vois, ils te disent qu'ils le compensent par quoi, le produit ? Enfin, l'absence de produit.
Quand ils arrêtent ?
Ouais.
Ils s'investissent toujours dans quelque chose. On cherche toujours à ce qu'il y ait un domaine un petit peu surinvesti au début, qui permet de, quand on pense à ça, on puisse tout de suite penser à autre chose. Donc c'est un peu de la distraction, mais au final, sur le court terme, il en faut. C'est ce que nous, on appelle de l'évitement, mais c'est pas bien normalement, mais sur le très court terme, il faut pouvoir avoir cet évitement contrôlé pour en fait remettre en marche le cerveau correctement sans la substance. Donc pour le cannabis, on l'a moins, mais c'est vraiment s'investir sur quelque chose qui compte et qui a de l'importance pour dévier un peu l'envie.
D'accord. Parce que j'avais déjà entendu qu'effectivement, il y avait quand même beaucoup d'ados qui devenaient des adultes consommateurs de cannabis. C'est quand même assez fréquent parce que justement, ils y trouvent une satisfaction.
Ouais, il n'y a pas de répercussions franchement négatives à la consommation de cannabis aujourd'hui, quand il est pur ou de bonne qualité. Et il a des effets intéressants. Donc, c'est clair. Il faut juste savoir que ça joue sur les capacités cognitives. Donc ça joue beaucoup sur la mémoire, notamment la mémoire de travail. Et agir, fonctionner, travailler sans mémoire de travail, c'est ce qui nous permet de manipuler les informations et de réfléchir. C'est assez dramatique et en fait, c'est pas d'un coup, c'est progressif. Donc c'est comme le homard dans de l'eau tiède, il se rend pas compte que le feu augmente et qu'il est en train de cuire. Donc on voit des gens...
On est sûr de ça ?
Je demanderai au homard, je lui redemanderai. Mais normalement, oui. Et en fait, l'idée, elle est là, c'est de se dire que franchement... Tester cette substance, c'est moins dangereux que tester de l'héroïne, par exemple. Et encore, on parle plus maintenant d'usage problématique. On peut avoir des drogues douces, mais avec des usages durs, en fait. Donc, on est vraiment en train de revoir cette classification des substances. L'idée est de se dire que il faut pas dépendre de quoi que ce soit. Il faut être flexible. On en revient à cette notion.
Mais en parlant de flexibilité, quand on entame une thérapie de type TCC pour arrêter de consommer du cannabis, il faut avoir arrêté au préalable ?
C'est vrai que c'est recommandé,
d'accord.
Mais non, la TCC est aussi faite pour aider les gens à arrêter.
D'accord. Non, je voulais juste préciser, effectivement.
Surtout par ce qu'on appelle les entretiens à la motivation. Motiver la personne à avoir l'énergie et les ressources et les capacités à arrêter.
pour entamer justement vraiment ce processus. Exactement. Quoi. Donc est-ce que parfois on conseille des séjours en clinique quand c'est vraiment
on peut en arriver là.
S'implanter dans la vie de l'ado, quoi.
C'est beaucoup plus rare en termes de chiffres, mais que l'alcool, par exemple. Mais oui, ça, on peut en arriver là. C'est vraiment il y a plein de dimensions. Donc l'aspect social, par exemple, s'il faut isoler une personne parce que son environnement social est très difficile à gérer pour arrêter, faire une cure va être primordial, par exemple.
Ouais. C'est ça, que ce soit pas en handicap, enfin voilà. que ça ne mène pas à l'échec systématique parce que les conditions sont pas réunies, quoi.
Exactement.
On parle souvent du cannabis comme révélateur de certains troubles ou pathologies mentales. Bon, on a beaucoup entendu parler de la schizophrénie. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Bah que c'est pas faux.
Ça peut être révélateur.
Ouais, il y a beaucoup de tendances paranoïaques, par exemple, qui peuvent arriver sous effet de cannabis.
D'accord.
Et effectivement, au niveau structure cérébrale, la vulnérabilité qui est déjà présente. De par la génétique, peut être amplifié, le risque est amplifié par usage de cannabis, c'est vrai.
Est-ce que, à contrario, ça veut dire que si le jeune n'avait pas, enfin l'ado n'avait pas fumé de cannabis, ça aurait très bien pu ne jamais se révéler, sa schizophrénie?
Oui, techniquement, oui.
Ah oui.
Oui, ça se peut. Après, je ne peux pas dire dans combien de cas la schizophrénie qui s'est révélée est due à ça uniquement ou pas. Je pense que personne ne peut, à ma connaissance. C'est un facteur aggravant, ça c'est clair. C'est un déclencheur possible, mais on a déjà une vulnérabilité à la base.
Mais plus simplement, sans parler de paranoïa, tout ça, quels sont les signes chez l'ado qui peuvent alerter en fait le parent d'une consommation qui serait excessive ou qui devrait alarmer, quoi?
C'est vraiment tout ce qui est prise ou perte de poids massive. C'est aussi tout ce qui est difficulté scolaire, difficulté à la motivation. On se rend compte aujourd'hui que c'est pas grave en soi, mais au final, c'est central dans tout ce qu'on fait. C'est au niveau motivationnel. C'est qu'on a des gens, adultes ou enfants, qui manquent d'énergie, manquent d'envie. Et en fait, il n'y a rien qui plaît plus que ça. Donc, c'est des gens qui s'éteignent un petit peu. Et donc, c'est un peu les mêmes symptômes qu'une dépression au final, mais liés à la substance, quoi.
Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Donc, on ne sait pas forcément que c'est lié à la substance. Finalement, ça va peut-être être l'inverse, c'est-à-dire on va constater plusieurs symptômes et après seulement, on va découvrir qu'il y a consommation derrière. Ouais. Donc, on l'a déjà dit, pour la cigarette et pour l'alcool, la position du parent doit rester pragmatique.
Oui.
Lol, j'ai envie de dire. Hein.
Ouais.
Comment faire?
En fait, faut prendre sur soi, boire un petit coup avant pour être bien comme il faut. Et clairement, le but étant de comprendre que y aller en frontal va juste activer probablement ce qui fait que l'ado consomme. Donc y aller en frontal, ça va limite amplifier son comportement à risque. Donc y aller en frontal, ça sert à rien. Ça donne juste un sentiment de pas être compris. Alors qu'y aller en mode, je prends sur moi mes émotions, je les gère, je suis ton parent, c'est pas à toi de les gérer, mais je t'explique que j'essaye de comprendre comment toi tu vas, explique-moi, au lieu que moi je te dise comment toi tu vas, toi vas-y dis-moi. Et en fait, dans cet échange un petit peu plus égalitaire, on voit qu'il y a une confiance qui s'installe vraiment, et donc on peut beaucoup plus aider quelqu'un de cette façon-là.
Oui, c'est pour ça que ce genre d'émission aussi est utile, dans le sens où comme ça, on peut peut-être un peu s'y préparer. Parce que je pense qu'en tout état de cause, c'est quand même un choc. Hein.
Ouais,
c'est que, voilà, autour de nous, des amis nous racontent que leurs enfants, enfin, on est un peu là en train d'essayer d'éviter l'orage.
C'est ça.
En se disant, oulala, le nuage n'est pas passé au-dessus de moi aujourd'hui, mais peut-être qu'un jour, il y passera. Et pour d'autres choses d'ailleurs, hein, pour d'autres types d'addictions.
Ah, oui.
On avait discuté, toi et moi, en préparant l'émission, sur quel sujet on allait s'arrêter. On aurait pu faire les écrans, on aurait pu... Voilà, on avait envie de parler de substances. Je pense que pour les écrans, il y a peut-être plus d'infos, c'est peut-être plus facile d'en trouver en ce moment. Mais il faut quand même rester attentif. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on aurait pu en parler. Donc restons attentifs et gérons nos consommations, à nous aussi d'ailleurs. Hein.
Exactement.
Voilà, parce que bon, on a beau dire, donner des leçons, c'est pas toujours l'idéal. Merci Lucas, et merci pour tes trois interventions brillantes.
C'est gentil.
Et cette fluidité dans la conversation, c'est toujours agréable. Et tu reviens quand tu veux.
Bah, c'est gentil. Merci Julie. Merci Thomas aussi. Et
oui,
puis,
merci beaucoup Thomas.
À bientôt avec plaisir.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.
C'est pas croyable. On peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien. On peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici. Tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
Toutes les semaines, sur Radio Judaïka, retrouvez l'émission Nos Adorés. C'est l'émission qui répond aux questions que se posent les ados.
Et que nous conseillons vivement aux parents.
Tous les mardis, à 13h30,